va commencer l'année avec Anne Sylvestre. Qui c'est qui fait la vaisselle? Mais ça, c'est la programmation Graphite. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes en direct sur l'antenne de Graphite, comme tous les samedis, entre 12h et 13h. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique et technologique sur l'antenne de Graphite. Merci Ernesto pour l'émission en direct du Balasoes. Ça nous a mis en joie, toutes ces musiques portugaises. Et on te retrouve donc, Ernesto, la semaine prochaine. J'ai compris qu'Enrique, il a pris quelques congés. Il a bien raison, on le retrouvera un petit peu plus tard tous les samedis à 11h, Vibrasoes sur l'antenne de Graphite. Et le midi, c'est entre 12h et 13h, tous les samedis, c'est Biotine, l'émission de science de Graphite. Nous sommes en 2020. Déjà, ça fait peur. Je pense qu'on n'a même pas réagi qu'il y a 20 ans, on fêtait l'an 2000, puis maintenant, 2020, maintenant ça passe à une vitesse. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette année, et puis comme ça sera fait, je vais dire aussi pour cette nouvelle décennie, la santé évidemment, et puis le fait de profiter de la vie, d'être joyeux, d'être créatif, d'être enthousiaste, ça nous ferait du bien tout ça, et puis l'actualité scientifique, ne va pas s'arrêter. On va dans cette émission regarder un petit peu le passé et regarder l'avenir. Le passé pour voir un petit peu cette décennie, ce qu'elle leur a apporté d'un point de vue scientifique et technique, et le futur pour voir ce qui nous attend, parce que la décennie 2020, si vous êtes fidèle de cette émission depuis plusieurs années, on a pas mal de choses qui sont programmées dans les années 2020, et notamment au niveau de l'espace. Donc on suivra ça, bien sûr, dans l'émission Biotine pour ces années futures, si on continue bien sûr à être à l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Aisne, l'Oise et la Somme bien sûr, et puis partout ailleurs graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé. On a beau être en direct, on a un petit problème de tablette, si bien que vous ne pouvez pas nous envoyer des SMS, et c'est fort dommage, elle s'est déchargée, on ne retrouve pas du tout avec Ernesto le chargeur, donc voilà, je vais être totalement seul au monde pendant une heure, mais j'espère que vous serez attentifs pour cette émission. Nous sommes donc aujourd'hui le 4 janvier 2020, et on ne va pas déroger à la tradition de l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui, c'est la journée mondiale du braille. Je ne sais pas pourquoi, le 4 janvier, la journée du braille. Mais voilà, c'est la journée internationale où on va se un petit peu consacrer sur cette technologie, le braille. D'autres 4 janvier, il y a eu pas mal de choses, en fait, le 4 janvier. En fait, les gens ne se sont pas arrêtés pendant les fêtes de fin d'année. En 1863, il y a un brevet d'invention qui a été accordé à James Plimpton. Il est à New York. En 1863, il a un brevet sur des patins à roulettes, le 4 janvier. Alors, s'il y a bien une saison où, en général, on ne fait pas trop de patins à roulettes, mais plutôt du patin à glace, c'est bien le 4 janvier, mais lui, non, il a déposé son brevet. En 1885, c'est la première appendicectomie par le docteur Grant de l'Iowa. C'est en 1885, déjà, on opérait l'appendicite, vous voyez. En 1958, Sputnik 1, le premier satellite artificiel de l'histoire, il a fait son petit tour, il rentre dans l'atmosphère, il se désintègre un 4 janvier. Et un petit peu plus proche de nous, 2004, la première sonde de la mission américaine Mars Exploration Rover qui se pose sur Mars. Nous sommes en 2004 et bien sûr Mars sera vraiment l'actualité de cette décennie 2020. En 2010, on inaugure aux Émirats Arabes Unis la tour Burj Khalifa. Elle fait 828 mètres de haut. Elle va être bientôt battue, même si ça l'est déjà d'ailleurs. Mais quand même, on fait des tours de 800 mètres de haut. Je crois qu'on ne s'en rend même pas compte de ce que cela signifie. Et en fait, il y a 6 ans, on annonçait la découverte de la tombe de la reine égyptienne Kenkaous III. C'était un 4 janvier 2014. Des naissances, il y en a qui sont nés un 4 janvier. En 1747, à Chalon-sur-Saône, c'est Dominique Vivant qui est le baron Denon. Il est graveur, écrivain, diplomate et administrateur français. En fait, il devient directeur général des musées. Il va s'illustrer particulièrement dans l'organisation du musée du Louvre. Et il est considéré aujourd'hui comme un grand précurseur de la muséologie, de l'histoire de l'art et de l'égyptologie. Alors il a écrit aussi pas mal de choses. Il a dit « Je n'ai rien étudié parce que cela m'eût ennuyé, mais j'ai beaucoup observé parce que cela m'amusait, ce qui fait que ma vie a été remplie et que j'ai beaucoup joui », dit-il. Donc voilà, lui n'a pas fait d'études, il était un autodidacte, mais il a fait beaucoup de choses. Et une aile actuelle du musée du Louvre porte son son nom, l'aile de nom, bien sûr, si vous avez visité le musée du Louvre. C'est donc Dominique Vivant, baron de nom, né à Chalon-sur-Saône, un 4 janvier 1747. Un décès, un 4 janvier 1752, on reste dans le 18e siècle, celui de Gabriel Cramer, ou Cramé, je ne sais pas, tiens d'ailleurs, comment on peut prononcer ça, C-R-A-M-E-R, on va dire Cramé, ce sera peut-être, je sais pas, c'est pas glauque, c'est glauque un peu, ça Cramer, on va dire Cramer, ça fera mieux. C'est un mathématicien genevois. Et il est né en fait à Genève, professeur de mathématiques, professeur de philosophie à l'Académie de Genève, et il est considéré comme l'artisan du renouveau scientifique à Genève du début du XVIIIe siècle par l'introduction de la philosophie naturelle newtonienne. Et ses contributions mathématiques portent essentiellement sur l'algèbre et la géométrie. Il a écrit un seul ouvrage qui est paru en 1750, et on trouve notamment dans cet ouvrage la méthode connue aujourd'hui sous le nom de règles de Cramer ou de Cramé, bon, je n'en sais rien, je fais appel aux mathématiciens pour qu'ils puissent me dire comment on prononce ce nom. Et cette méthode, ça permet de résoudre des systèmes linéaires d'équations utilisant ce qui sera ultérieurement appelé les déterminants. Mon Dieu, un 4 janvier, je vous assomme déjà avec des mathématiques, c'est un peu violent, j'en suis désolé, mais c'est parce que Gabriel Cramer ou Cramé est mort à Bagnols-sur-Cèze un 4 janvier, c'était en 1752. C'est toujours intéressant avec cet éphéméride de faire un petit peu le point sur des vies de scientifiques qui, à l'époque, hein, 18e siècle, touchaient un petit peu à tout, étaient pour certains autodidactes avec deux noms notamment. Et pendant toutes les semaines sur l'antenne de Graphite, on fera toujours l'éphéméride. Déjà, ça nous permet de savoir quel jour on est, parce qu'on n'arrive pas bien à savoir, et ça nous permet un petit peu d'avoir une idée d'un point de vue historique sur ce qui se faisait. Voilà, il y avait Spoutnik en 1958, donc il y a maintenant bientôt 50, 60 ans déjà. C'est effrayant. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été... je dirais pas sobre, parce que bon, quand même pas non plus plaisanter. Enfin, je veux dire, on sait très bien qu'on fait toujours quelques excès, hein, et puis on a un peu mal de tête, hein, un petit peu nausée, fatigue, engourdissement, des tremblements. Bref, ce sont les symptômes désagréables de ce qu'on appelle entre nous la gueule de bois, bien sûr. Gueule de bois qui est consécutive à l'abus d'alcool. Ces symptômes sont liés entre autres à la production dans notre corps d'un composé qui s'appelle l'acétaldéhyde. C'est un composé toxique que le corps fabrique pour essayer de dégrader un petit peu cet alcool. Donc, on produit cet acétaldéhyde et c'est ça qui nous donne un petit peu cette notion de gueule de bois. Alors, sur Internet, vous pouvez regarder, il y a une quantité de remèdes naturels qui sont censés faire passer plus vite justement cette gueule de bois, cette espèce de malaise. Alors, du thé avec du miel, du jus de tomate, du bouillon de bœuf, du chou fermenté. Bon, tout ça n'a jamais été validé scientifiquement, bien sûr, mais ça quand même toujours, ça continue à être diffusé, bien sûr, sur Internet. Alors, il y a de nombreuses études qui se sont quand même penchées sur cette question en essayant de trouver le composé miracle capable d'augmenter la production des enzymes qui vont pouvoir dégrader et accélérer l'élimination de l'alcool par le foie. Alors, il y a par exemple les polyphénols qui se trouvent dans de nombreux fruits et légumes qui semblent ainsi avoir une certaine efficacité. Et un chercheur chinois avait même publié il y a 5 ans une recette d'une mixture qui était à base d'herbes médicinales et qui permettait de faire chuter le taux d'alcool dans le sang. Et pour tenter d'y voir plus clair, eh bien, une autre équipe, une équipe de chercheurs indiens de l'Institut chimique de technologie de Mumbai qui a passé au crible des dizaines d'aliments et de composés. Alors ils ont regardé la papaye, l'oignon, le fromage, le gingembre, le blé, l'acide ascorbique, le café, le safran. Ils ont essayé tout ça in vitro et ils ont voulu un petit peu voir l'activité de tout ça sur ces fameuses enzymes qui vont nous permettre de dégrader l'alcool, et aussi vont regarder un petit peu le pouvoir antioxydant. Eh bien, il y a quand même des aliments qui s'avèrent particulièrement efficaces. La poire, par exemple, le citron. Alors, un certain citron, c'est le citron doux qu'on appelle la limette. Alors, je ne connais pas ce qu'est le citron doux, mais apparemment, c'est assez efficace. Ou alors, le cheddar, le blanc d'œuf, le thé vert et l'eau de coco. Alors, bon, du citron, de la poire, ok, je veux bien quand on a la gueule de bois de manger ça, mais alors du blanc d'œuf et du cheddar, c'est quand même pas génial, mais bon. Et les chercheurs, ils ont constaté aussi dans leurs études que la vitamine C, alors c'est pourtant l'un des ingrédients phares de tous ces remèdes anti-gueule de bois qui existent et qui sont vendus en pharmacie, eh bien, cette vitamine C, elle a un pouvoir... Enfin, c'est contre-productif, en fait, parce qu'elle fait chuter l'activité des enzymes qui va nous permettre d'éliminer l'alcool. Donc, en fait, la vitamine C, non, c'est pas bon. Et cette étude de chercheurs indiens permet justement de pouvoir confirmer cela. Donc, ils ont fait des cocktails et résultat, je vous donne la formule retenue comme la plus efficace contre la gueule de bois. Notez, prenez une feuille, notez ce qu'il faut faire. C'est un cocktail avec 65% de poire, un quart, 25% de citron doux, alors ce fameux citron doux, je ne sais pas où est-ce qu'on achète ça, et 10% d'eau de coco. Vous mélangez ça, vous buvez ça et normalement, c'est bon, la gueule de bois disparaît. Alors voilà, donc si vous avez encore le 4 janvier la gueule de bois, c'est que c'était quand même un réveillon assez bien arrosé, hein. Félicitations, et bien si vous avez encore la gueule de bois, vous essayez ça, hein. 65% de poire, un quart de citron doux et 10% d'eau de coco, et normalement ça devrait le faire. En tout cas, in vitro dans les laboratoires ça a fonctionné, hein. On s'est rendu compte qu'il y avait une véritable efficacité. Maintenant, il ne faut quand même pas se leurrer, c'est-à-dire que chacun a une réaction différente par rapport à l'alcool et par rapport aux effets de ce cocktail, évidemment, selon la quantité d'eau qu'il y a dans le corps, les différences vraiment individuelles, les différences de sexe également, les différences de masse corporelle, de masse de graisse également qu'il y a dans le corps. Bref, tout ça intervient également, donc il n'y a pas de solution miracle, et ce cocktail censé être miracle sera plus ou moins efficace selon les personnes, mais vous pouvez essayer. L'article de Futura Science conclut cette étude en disant que bien sûr, il faut boire modérément, oui, on le savait, évidemment, et puis boire régulièrement de l'eau entre deux verres d'alcool. Voilà, c'est ça la solution. Et faire attention, bien sûr, parce que le fait de boire beaucoup et le fait ensuite de boire ces espèces de cocktails anti-gueule de bois, c'est quand même pas génial aussi sur le foie, ça agit doublement, donc il faut être raisonnable. En fait, je vous souhaite pour cette année 2020 d'être raisonnable. Voilà, c'est aussi efficace que ça. C'est des chercheurs indiens qui ont finalement sont parvenus à cette conclusion. Mon Dieu, on n'en sortira jamais. Je vous souhaite un bon appétit en plus. Vous êtes en train de manger de la poire, allez savoir. Et on va bien sûr dans cette émission écouter un peu de musique. Alors pour cette année 2020, quand je suis arrivé dans le studio, il y a une pile de CD que nous avons reçus. Et donc c'est la programmation musicale qui a été préparée. On va écouter Inguana Death Cult sur l'antenne de Graphite. Je vais découvrir en même temps que vous cette programmation musicale. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises parce que je reprends l'antenne après une absence de ces fêtes de fin d'année pour que nous puissions démarrer sous les chapeaux de roue. On continue de feuilleter l'actualité scientifique et on va parler de l'année 2020 considérée comme l'année internationale de la santé des végétaux juste après ce titre sur l'antenne de Graphite. Shake it so hard, you turn it a little more, sweat it out. Trouble, hey! remercie tous, bien sûr, celui qui a utilisé la platine le dernier pour nous avoir mis le son à fond, ça nous a réveillés. C'était Lorraine d'Inguana Death Cult sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. J'ai perdu mes deux tympans en fait, moi dans le casque. Et donc on va continuer à feuilleter l'actualité scientifique. Je n'ai pas dit qu'on retrouvait Anne Fleur également dans cette émission avec sa chronique InnoCity. Elle choisit une ville et elle nous parle des inventions qui ont été créées dans cette ville. On verra ça dans cette émission tout à l'heure. Je vous disais juste avant donc ce titre très réveillant que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a donc lancé il y a quelques jours l'année internationale de la santé des végétaux. Ce sera l'année 2020. Alors l'année dernière, on se souvient de cette année internationale consacrée au tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Et toutes les semaines, nous avons rempli une case de ce tableau des éléments. Eh bien, ça s'est arrêté, hein, pour le grand plaisir de beaucoup de personnes, je pense. Et 2020, ce sera la santé des végétaux. C'est un petit peu bizarre au premier abord de se dire, tiens, on va consacrer l'année internationale à la santé des végétaux. Et en fait, c'est pas si anodin que ça. Le but, c'est de sensibiliser le public à la protection de la santé des végétaux comme levier pour éliminer la faim, réduire la pauvreté, protéger l'environnement bien sûr et doper le développement économique. Alors les végétaux représentent 80% des aliments que nous consommons et produisent 98% de l'oxygène que nous respirons et pourtant ils subissent une menace constante, croissante, à la fois des ravageurs et à la fois des maladies. Et chaque année, jusqu'à 40% des cultures vivrières mondiales sont détruites à cause justement de ces ravageurs et des maladies, ce qui entraîne une perte qu'on estime à environ 220 milliards de dollars américains, ce qui est quand même pas rien, ce qui engendre bien sûr la famine pour des millions de personnes, ce qui endommage l'agriculture aussi, qui est la principale source de revenus des communautés rurales pauvres. Et pour ces raisons, les politiques et les mesures de promotion de la santé des végétaux sont fondamentales pour justement la réalisation de ces objectifs de développement durable. Et donc les végétaux fournissent les éléments de base pour la vie sur Terre et sont le pilier le plus important dans l'alimentation des hommes, mais la santé des végétaux n'est pas une chose acquise, c'est ce qu'a déclaré Ku Dong-yu, qui est le directeur général de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Il l'a déclaré lors de cette inauguration de l'événement pour le lancement de cette année internationale. Le changement climatique, les activités humaines, ce sont des écosystèmes qui vont avoir une influence, qui réduisent la biodiversité, qui créent des conditions qui permettent aux ravageurs de se multiplier. Et puis en même temps, il y a les voyages, il y a le commerce à l'échelle internationale, tout ça a triplé de volume au cours des 10 dernières années, ce qui permet une diffusion rapide à la fois des ravageurs et des maladies à travers le monde, ce qui va porter préjudice aux végétaux et à l'environnement des populations autochtones. Donc protéger les végétaux des ravageurs et des maladies, c'est ça qu'il faut faire bien sûr, et c'est le but de cette année internationale de la santé des végétaux. Il y aura donc pas mal d'actions, de promotion, de sensibilisation qui vont être mises en place tout au long de cette année pour promouvoir donc cette santé des végétaux, au-delà bien sûr de l'année 2020, une année qui entend mettre l'accent sur la prévention et la protection, ainsi que sur le rôle de chacun d'entre nous qui peut jouer pour pouvoir garantir et promouvoir cette santé des végétaux. Donc voilà, l'année 2020, ce sera la santé des végétaux. Donc on aura régulièrement un petit suivi de l'actualité de cette année internationale et puis on pourra axer aussi certains articles qu'on va évoquer dans cette émission sur ces travaux qui sont mis en place pour essayer de protéger les végétaux. On verra ça bien sûr. Je vous propose de regarder un petit peu derrière nous. On vient de refermer la décennie 2010 et il y a pas mal d'articles qui essayent de faire un petit peu le point sur ce qui a été découvert, sur les grands événements marquants de cette décennie et notamment d'un point de vue objet technologique. Il est quand même assez évident que on a eu pas mal de choses qui se sont mises en place au cours de cette décennie. Alors il y a Futura Science qui fait un article qui essaye de récapituler ce qui apparaît pour lui comme les éléments les plus marquants de cette décennie. Par exemple, l'imprimante 3D qui est lancée en janvier 2012. La première imprimante 3D s'appelle MarkerBot Replicator. En fait, elle a contribué, cette imprimante 3D, à démocratiser cette technologie auprès du grand public. Alors, à l'époque, en 2012, elle ne fonctionne qu'avec des filaments de plastique. On s'en souvient, et puis ça imprimait d'une façon lente. Il fallait vraiment être patient. Aujourd'hui, bien sûr, on trouve des modèles un petit peu plus efficaces, à peu près aux environs de 250 €, qui sont compatibles avec de nombreux matériaux. Alors, le marché des imprimantes 3D personnelles, ça peine quand même à décoller. On n'a pas chez nous une imprimante 3D, c'est quand même pas quelque chose qu'on a souhaité recevoir pour Noël, par exemple. Mais l'impression 3D, dans cette émission, on en a très souvent parlé, parce qu'elle s'est largement imposée dans l'industrie, le prototypage, bien sûr, la médecine. Il y a eu énormément de choses au niveau médecine et sur la construction également. On se souvient, je crois, de mémoire, c'est à Nantes, il me semble, où il y a eu la première maison imprimée en 3D. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place. Et c'est vrai que l'année 2010 était quand même la décennie 2010 a été la décennie de l'imprimante 3D. Il y a eu d'autres choses un petit peu plus anecdotiques. Il y a eu la perche à selfie également qui est apparue en 2014. Alors ça découlait bien sûr l'utilisation des smartphones. Et puis ça découle aussi un petit peu de ce symbole du narcissisme. C'est-à-dire que c'est les selfies, c'est le fait que nous, on veut se prendre nous en photo et ainsi de suite. Les réseaux sociaux, tout ça, la perche à selfie est un petit peu symptomatique de cette décennie, même si on se rend compte que ces dernières années, ça revient un petit peu. Enfin, on en voit beaucoup moins, bien sûr. Et puis maintenant, c'est carrément banni des musées, des festivals. Même les parcs Disney ne veulent plus de perche à selfie. Mais en tout cas, c'est aussi quelque part un symbole de cette décennie. La trottinette électrique également, qui est apparue en 2017, elle avait été commercialisé par Xiaomi à 350 € à l'époque. Alors ça a eu un essor énorme en 2018 et surtout 2019, et puis dans certaines villes, notamment à Paris, il y a eu quand même pas mal de difficultés, si bien que maintenant ça a été un petit peu plus régulé au niveau de ce marché. L'iPad, les tablettes, bien sûr, l'iPad date lui de 2010, et les autres tablettes également. C'est un petit peu aussi un symbole de cette décennie avec ces technologies. Et autant l'imprimante 3D, on n'en a pas nécessairement chez nous, autant les iPads ou en tout cas des tablettes, on en a quand même pas mal. Autre chose qui est apparue, c'est la cigarette électronique. Elle a été lancée en 2015 aux États-Unis. Elle avait au départ une forme de clé USB avec des recharges aux saveurs fruitées, mentholées, et ça avait fait rapidement un tabac auprès des jeunes. Et donc ça part en 2015. C'est un produit qui connaît pourtant un sérieux bad buzz, comme on peut évoquer aussi ce nom, le bad buzz. C'est aussi un petit peu symptomatique de la décennie 2010, parce que depuis quelques mois, le fabricant était accusé d'encourager la dépendance à la nicotine chez les mineurs. Et puis bien sûr, on en a parlé dans cette émission, la cigarette électronique, elle est également soupçonnée de causer des infections pulmonaires graves, même causer des morts, même si pour de nombreux tabacologues, cette solution demeure pourtant l'un des meilleurs moyens de sevrage de la cigarette. Donc voilà, c'est comme tout, il faut être consommé avec modération, qui est la formule consacrée bien sûr. Et ces derniers mois, on a dans cette émission évoqué certains articles qui commencent à évoquer les effets néfastes de la cigarette électronique. C'est apparu en 2015 et comme je vous l'avais dit à l'époque et je vous le redis aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour avoir du recul, pour voir justement l'impact que peut avoir les cigarettes électronique sur notre santé. Et là, ça commence à devenir... On commence à avoir des articles qui commencent à paraître. Donc, du coup, on commence à avoir une idée. Donc, faire attention. Et cette cigarette électronique est aussi assez symbolique de la décennie 2010. Comme les enceintes connectées, bien sûr, la première enceinte connectée, elle s'appelle Alexa. C'est Amazon qui la lance en 2014 déjà, quand même. Il y a 6 ans, mine de rien. Et il y a eu aussi d'autres enceintes connectées, d'autres fournisseurs qui ont été développé, commercialisé, et c'est bien sûr maintenant un objet qui commence à venir dans nos foyers. Les AirPods, vous savez, ces petits écouteurs sans fil qui ont été développés par Apple en 2016, et c'est intéressant parce que du coup, ça s'est un petit peu démocratisé aussi. Le revers de la médaille, c'est qu'on les perd assez facilement, et on apprend que le gestionnaire du métro de New York, il a dû lancer des avertissements parce que il fallait essayer d'éviter les accidents de personnes, parce que les gens descendaient sur les voies parce qu'ils perdaient en fait leurs iPods et donc leurs AirPods, j'y arrivais, et donc ils les récupéraient sur les voies totalement inconscients. Les gens sont fous, idiots, c'est pas possible. Mais donc voilà, il y a eu quand même pas mal de difficultés, si bien que le gestionnaire du métro de New York a fait des avertissements en disant attention aux AirPods, il faudrait revenir au filaire. Dernière chose, dernier objet technologique qui a quand même marqué cette décennie, ce sont les drones, bien sûr. On en a aussi très souvent parlé dans cette émission. Les drones qui sont devenus populaires de plus en plus. Le premier date de 2013, il s'appelle le DJI Phantom, qui possédait même pas de caméra à l'époque, mais ça s'est assez bien démocratisé, bien sûr, avec maintenant l'utilisation par les professionnels, mais aussi des amateurs qui souhaitent prendre des photographies de lieux insolites. Et le drone est aussi un petit peu l'objet marquant de cette décennie 2010. Voilà, quand on regarde un petit peu en arrière, d'un point de vue technologique, il y a eu des choses assez extraordinaires qui ont été développées d'une façon assez rapide. On a l'impression vraiment que la technologie va à grande vitesse, et ça permettait, voilà, de voir cette décennie, ce qui est apparu et ce qui est maintenant presque dans notre quotidien, bien sûr. On verra les 10 percées scientifiques, cette fois des années 2010, juste après un autre titre sur l'antenne de Graphite. Alors, je vais maintenant faire gaffe au son. Je vais mettre le son un petit peu mieux, bien sûr, pour écouter maintenant. Je découvre avec vous NA, point d'exclamation. C'est le nom du groupe sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Ah non. Eh ben non, ça ne marchera pas. Décidément, j'ai pas beaucoup de chance, hein, en fait. Allez, je vais redémarrer, je suis désolé. C'est le début de l'année, en fait. Ça y est, c'est parti, à tout de suite.
Reconnais-moi dans le noir, souffle-moi dans le cou. Reconnais-moi dans le noir, souffle-moi dans le cou. Quand la lumière se fait rare et que je te rends fou. Quand la lumière se fait rare et que je te rends fou. Laisse-moi dévorer et boire ton corps et puis c'est tout. Laisse-moi dévorer et boire ton corps et puis c'est tout. Reconnais-moi dans le noir, souffle-moi dans le cou. 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 Reconnais-moi dans le noir, souffle-moi dans le cou.
Le coup, c'était Na sur l'antenne de Graphite. Ça fait partie du dispositif stéréo qui est coordonné par la ville de Saint-Quentin avec l'appui de ses partenaires départementaux et régionaux. Donc, nous sommes dans le département la région des Hauts-de-France. Pardon. Et donc l'objectif, en fait, c'est de pouvoir favoriser le repérage, l'émergence et d'accompagner pendant un an 5 groupes dans le développement de leur projet. Et donc parmi ces groupes, il y a le groupe NA. Donc c'est, voilà, nous avons découvert en 2020 sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Nous sommes en direct, mais je n'ai toujours pas encore retrouvé le chargeur pour recharger justement cette fameuse tablette objet mythique de la décennie 2020. Donc tant pis, on n'aura pas de message, mais je vous souhaite quand même un bon appétit, je vous souhaite une bonne année. Soyez heureux, profitez-en, on va faire un petit point encore de la décennie 2010 avec les 10 percées scientifiques qui sont assez symboliques de ces années 2010. Alors par exemple, et on en avait parlé dans cette émission, même si c'est pas évident de parler de l'image d'un trou noir, mais en tout cas voilà, ça avait été on n'avait jamais réalisé jusqu'à maintenant l'image d'un trou noir. 100 ans après la prédiction de leur existence dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, eh bien, on avait réussi à pouvoir photographier ce trou noir. Vous aviez sûrement vu cette image qui a été possible grâce au télescope terrestre Event Horizon. Et c'est un petit peu aussi un événement assez marquant d'un point de vue scientifique. Autre chose, c'est d'un point de vue biomédecine. Il y a les généticiens qui savent depuis longtemps créer les fameux OGM, les organismes génétiquement modifiés, mais les techniques de modification du génome étaient laborieuses, étaient chères, elles étaient peu précises. Eh bien, ce sont les chercheuses Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna qui ont décrit dans la revue Science en 2012 un outil moléculaire capable de modifier simplement le génome. C'est un mécanisme qu'on appelait dans les laboratoires CRISPR-Cas9 et qu'on a surnommé d'une façon un petit peu plus vulgarisée les ciseaux moléculaires, faciles d'emploi, peu coûteux, et ça permet aux scientifiques d'aller couper l'ADN exactement là où ils le veulent pour essayer de corriger ou de créer une mutation génétique et de soigner des maladies rares. C'est une technique qui est encore loin d'être infaillible et qui fait craindre aussi un petit peu les apprentis sorciers qui pourraient faire des expériences dans leur garage, par exemple. Par exemple, ce scientifique chinois qui avait fait scandale, on l'avait parlé dans cette émission, en utilisant cette technique sur des embryons humains lors d'une fécondation in vitro et qui avait donné naissance à des jumelles. C'est donc ces ciseaux moléculaires qui est aussi une véritable percée scientifique de cette décennie 2010. Il y a également eu la découverte de nouvelles espèces majeures dans le genre humain. Alors on connaissait Homo sapiens, Homo erectus et Homo néandertalensis, néandertal bien sûr, et on a au début de cette décennie 2010 découvert une nouvelle espèce qui est l'homme de Denisova et avec des caractéristiques génétiques particulières. C'était une vraie découverte, une vraie avancée. Dans le dernier numéro de l'hebdomadaire Le Point, il y a également qui reviennent un petit peu, enfin c'était celui de la fin 2019, revient justement sur cette découverte et sur ces espèces humaines avec bien sûr Homo sapiens, mais revenait également sur cette découverte en début de décennie de l'homme de Denisova. C'était assez important, on n'en avait pas nécessairement parlé dans cette émission, mais en tout cas voilà, c'était assez marquant. Autre événement cette fois cosmique qui a marqué la décennie, c'est bien sûr la première détection le 14 septembre 2015 des ondes gravitationnelles. Et ça, on en avait parlé dans cette émission. Deux trous noirs ont fusionné dans un tourbillon il y a déjà longtemps. Hein. C'était il y a 1,3 milliard d'années. Une collision si puissante qu'elle a propagé dans le reste du cosmos des ondes qui contractent et dilatent l'espace à la vitesse de la lumière. Ces ondes ont finalement trouvé la Terre le 14 septembre 2015. On a donc pu les détecter et ce sont des installations spéciales qui les ont enregistrées et ça a permis d'illustrer ce qu'Einstein avait dit à l'époque. C'est donc les ondes gravitationnelles en 2015. Au niveau médecine, on a pu essayer de développer des thérapies pour soigner le cancer. Alors on connaît la chirurgie, on connaît la chimiothérapie, on connaît la radiothérapie. Il faudra maintenant parler d'immunothérapie. Ce sont de nouvelles technologies médicales qui permettent justement de pouvoir obtenir des résultats assez impressionnants pour certains cancers. Et ça a été développé au cours de l'année 2010. On aura parlé aussi dans cette émission très souvent de l'intelligence artificielle. Et s'il y a bien aussi une chose qui marque les années 2010, c'est bien cette intelligence artificielle. Alors bien sûr, on avait suivi en 2017 en direct dans cette émission ce combat spectaculaire avec le premier robot qui battait le champion du monde du jeu de Go. C'était en 2017 et qui avait été développé cette intelligence artificielle par Google. Mais il y a évidemment énormément de choses au niveau de l'intelligence artificielle qui sont en train de se développer. C'est véritablement une avancée importante qui sera marquante quand on regardera un petit peu plus tard, on regardera les années 2010. L'intelligence artificielle aura évidemment toute sa place. On aura parlé, on n'est pas prêt de finir aussi d'en parler, de la crise climatique, bien sûr. La seconde moitié de cette décennie, 2015-2019, ça concentre les années les plus chaudes jamais enregistrées. L'objectif d'empêcher la montée des températures de 2 degrés semble de plus en plus difficile à tenir. Même l'année dernière, les catastrophes naturelles se sont intensifiées, des incendies gigantesques. Il y en a en ce moment même en Australie, des cyclones plus puissants, des inondations toujours plus fréquentes. Les échecs successifs des négociations internationales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas de bon augure. Malgré la mobilisation citoyenne, la crise climatique sera bien sûr aussi marquante des années 2010. Enfin, deux dernières choses. La confirmation de l'existence du boson de Higgs qui a été observé pour la première fois en 2012. Nous sommes dans la physique nucléaire. C'est des choses assez compliquées, assez pointues, mais c'est une véritable avancée avec la découverte de ce boson de Higgs qu'on a surnommé la particule de Dieu. Et dernière chose, bien sûr, c'est Mars. Mars qui aura fait parler pendant 2010 et qui va faire parler aussi en 2020. On avait pu constater que on ne sait pas encore si Mars avait abrité la vie, mais on sait que la planète rouge a été habitable. On a pu découvrir des preuves où qu'il y a eu de l'eau sur Mars, peut-être même des océans. Et voilà, c'était des découvertes. Et bien sûr, on va maintenant aller voir sur place ce qu'il va y avoir. Ça va être un petit peu la course pendant cette année, cette décennie 2020 qui s'ouvre. Et bien sûr, le big data, les données importantes, tout ça est lié aussi un petit peu avec l'intelligence artificielle. Mais voilà, ce sont aussi des événements assez marquants quand on regarde cette décennie 2010, elle était quand même assez intéressante et assez géniale d'un point de vue scientifique, technique et médical, bien sûr. On va faire une pause, on va partir. On va partir où ? Tiens, je crois qu'on va partir aux États-Unis avec Anne Fleur. Anne Fleur et sa chronique InnoCity, elle choisit une ville au hasard et elle nous parle des inventions qui ont été créées dans cette ville. Bonjour Anne Fleur, je te souhaite à toi aussi une très bonne année.
Bonjour à tous et bonne année 2020. J'espère que les fêtes ont été bonnes et que vous êtes d'attaque et reposés pour la reprise. Alors aujourd'hui, je vous amène en balade à Buffalo, au nord-ouest de l'État de New York, donc aux États-Unis, à deux pas des chutes du Niagara. C'est en fait là que j'ai fait mes études. Et croyez-moi, Buffalo, c'est une ville qui mériterait d'être connue pour autre chose que ses fameuses chicken wings. Alors c'est parti, suivez-moi. La première invention dont je vais vous parler, c'est en fait le premier éclairage de rue électrique, donc pas au gaz, qui en fait est arrivé à Buffalo. En 1881, Buffalo était ce qu'on appelle une boomtown, c'est-à-dire que c'était un peu une des grandes villes américaines. Je crois que c'était la 8e plus grande ville aux États-Unis qui était donc connue pour son innovation et voilà le fait qu'il y ait plein de super choses qui s'y passent. Et donc en juillet 1881, le Brush Electric Light Company of Buffalo a installé la première usine électrique à Buffalo et a installé donc le premier éclairage électrique sur Ganson Street qui est le long de la baie de Buffalo, le long du lac Erie. Et en fait, c'était le premier éclairage de tout le pays, et en fait on s'est rendu compte quelques années après que c'était le premier éclairage a priori en tout cas rapporté dans le monde. Et alors, pourquoi cette rue en fait, c'est parce que c'était le long des rails. Et en fait, si vous avez eu la chance ou non de vous balader à Buffalo, c'est aussi en fait juste à côté donc des rails, du port et de beaucoup d'usines. Et donc en fait, il y avait énormément d'ouvriers et de travailleurs qui travaillaient la nuit. Et c'est comme ça donc qu'on a eu l'idée de pouvoir les éclairer pour améliorer la sécurité et donc que ces personnes puissent se repérer. Bah, à l'époque, on n'avait pas tous notre lampe de poche sur le portable, on s'en doute. La deuxième invention, et ben ça m'a vachement surprise parce que j'avoue que je connais beaucoup de choses sur cette ville de Buffalo qui est la ville de mon mari et qui me raconte toujours plein de choses sur cette ville, mais ça j'avoue que je ne connaissais pas. Le saviez-vous, en 1850, American Express a en fait été fondé à Buffalo. À l'époque, c'était un express mail business et ça a été donc fondé par Henry Wells, William Fargo et John Warren Butterfield. Et donc voilà, donc American Express a donc débuté à Buffalo sur Hudson Street et a été ensuite relocalisé donc 20-25 ans plus tard dans Manhattan, dans le Financial District, donc là où il y a Wall Street entre autres choses. La troisième et dernière invention dont je vais vous parler, elle est médicale. Quand on arrive en fait à l'aéroport de Buffalo, d'ailleurs, on nous le dit, ils en sont très fiers. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Great Batch qui est connue pour ses prothèses cardiaques. Et en fait, c'est la ville et l'entreprise qui ont développé le tout premier pacemaker. Cardiaque. Donc le pacemaker, c'est quoi? C'est quelque chose en fait qui, donc pace, ça veut dire le rythme, et donc maker qui fait. Et donc c'est ça, c'est en fait un outil qu'on va placer sur le cœur et qui va permettre de faire battre le cœur en rythme, et donc qui peut permettre de résoudre des soucis, notamment par exemple d'arythmie cardiaque. Et en fait, donc pour la petite histoire, ça date de 1950 où l'idée en fait venait de Boston d'un certain docteur Paul Zoll qui avait développé cette technique qui permettait donc de rythmer le cœur. Et en fait, ça n'était pas allé très très loin parce que c'était très 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 douloureux et en fait ça ne marchait pas longtemps. Le travail en fait a continué après à Minneapolis, qui est donc plus à l'ouest que Buffalo. Et deux docteurs ont développé un premier pacemaker temporaire qui était un outil externe qui était connecté avec un câble au cœur. Donc c'était quand même, ça restait quand même vachement, vachement difficile et vachement intrusif. Et ça a été utilisé en fait donc chez des enfants qui avaient des chirurgies cardiaques et qui développaient souvent des blocages cardiaques. Et voilà, donc en fait, ça, ce qui était bien, c'était effectivement que ça résolvait ce problème de rythme cardiaque, mais ça aidait pas énormément sur le long terme ces pauvres petits patients. Donc en fait, pas très longtemps après, à l'université de Buffalo, le professeur qui était aussi ingénieur Wilson Great Batch, du nom de la société dont je vous parlais, a imaginé et donc conçu le pacemaker implantable. Et alors, comme beaucoup de grandes histoires, en fait, il a imaginé ça dans son garage. Lui-même avoue en fait qu'il n'aurait jamais réussi à développer tout ça si on n'avait pas réussi à miniaturiser les technologies comme les transistors. Les transistors étaient complètement nouveaux à l'époque. Et c'est en fait comme ça que, donc pas longtemps après, hein, finalement, une fois entre l'idée qui est arrivée à Boston et le premier pacemaker implanté, c'est pas passé tant que ça, puisque le tout premier pacemaker a été implanté par Andrew Gage à Buffalo, à l'hôpital des vétérans, donc l'hôpital des armées, en 1960. Voilà, donc je tenais quand même à rendre un petit peu hommage à cette ville qui n'est pas très très connue, ni aux États-Unis, ni donc en dehors de ses frontières. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la balade dans cette jolie ville de Buffalo. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. J'espère que votre reprise se passera bien si vous avez eu des vacances, et j'espère que vous avez pu être reposé un petit peu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Anne Fleur. C'est vrai que Buffalo, finalement, enfin, faut pas se leurrer, nous, c'est le nom d'une chaîne de restaurants, c'est pour ça qu'on connaît un peu Buffalo, mais effectivement, une ville qu'on connaît pas. Et donc, les pacemakers, très bien, on aura appris pas mal de choses. Merci à toi, bonne rentrée à toi également. Et bonne année, Anne Fleur. On te retrouve bien sûr la semaine prochaine dans l'émission Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphit. Il est 12h45. Nous sommes en direct aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai plein de choses à vous dire et que l'émission va passer à une vitesse, c'est effrayant. Je voulais juste, parce que comme on fait quand même un petit peu le point sur cette décennie 2010 qui aura été assez importante et assez intéressante d'un point de vue scientifique, d'un point de vue médical, d'un point de vue technologique, avec pas mal de choses qui ont été développées, il ne faut quand même pas oublier non plus qu'il y a des choses moins réjouissantes qui se sont passées pendant cette décennie et on considère que plus de 160 espèces ont été déclarées éteintes par l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est une liste non exhaustive, sachant qu'il faut parfois des dizaines d'années avant qu'une espèce ne soit considérée comme éteinte, mais également bien loin de la réalité, parce qu'il y a de nombreuses espèces qui disparaissent avant même qu'on ait pu les identifier. Alors on sait bien sûr que la Terre a déjà connu plusieurs extinctions de masse, mais depuis son arrivée sur Terre, il y a 130 000 ans à peu près, l'homme a déjà causé la disparition de 2 500 000 espèces. Selon une étude de 2015, le taux d'extinction des espèces est 8 à 100 fois supérieur au taux normal depuis le début du 21e siècle. Et donc, il y a quelques-unes de ces espèces dont la fin est horriblement banale, mais qui ont donc été déclarées comme éteintes pendant cette décennie 2010. Par exemple, alors ça va pas être simple parce que c'est des noms hyper compliqués, donc je me lance. Ce petit passereau de Hawaï qui s'appelle Akealosa elinciana, eh bien, il a été déclaré éteint en 2016. En fait, il avait un long bec recourbé qui lui servait à dénicher les vers sous les écorces des arbres et aussi à pouvoir sucer le nectar des fleurs. Il était déjà menacé par la déforestation. Il a été aussi victime de la grippe aviaire qui a été introduite sur l'île par les moustiques sur l'île d'Hawaï et donc il a été déclaré éteint en 2016. Legoripus apicalis, c'est un petit rongeur d'Australie. Il construisait des nids géants qui pouvaient atteindre 3 mètres de long et 1 mètre de haut. C'est des grands nids. Il était relativement courant au début du 21e siècle. Il s'apprivoisait facilement. Et bien son déclin est probablement lié à l'invasion de chats en Australie, responsable à eux seuls de la disparition d'une vingtaine d'espèces natives de l'île. Et donc l'Union internationale pour la conservation de la nature l'a déclaré éteint également en 2016. Ça va à une vitesse. C'est effrayant. Il y a le criquet des montagnes rocheuses également, qui était en son temps redouté des cultivateurs américains. Il semble même qu'il détienne le record de la plus grande concentration animale au monde. Il y avait un essaim de 510 000 km² plus grand que la Californie, qui avait été observé en 1874 dans le Nebraska. On avait considéré qu'il y avait 12 000 milliards d'individus dans cet grand essaim. Eh bien, l'espèce semble pourtant avoir mystérieusement disparu, peut-être en raison des modifications des terres, et le criquet des montagnes rocheuses a été déclaré éteint en 2014. C'est quand même assez effrayant. D'un point de vue végétaux également, la violette de Crick était une fleur à la corolle violette qui a été principalement dans le département de l'Yonne, et elle a malheureusement disparu suite à l'extension d'une carrière. Sa dernière observation remonte aux années 1950, mais elle était, cette espèce, considérée comme éteinte en 2011. Et puis, il y a une cousine également, qui est la pensée de Rouen, qui, elle, aussi gravement menacée, elle a même causé la modification d'un contournement routier de la ville en 2016, parce qu'il fallait essayer de protéger cette violette. Donc, celle du département de Lyon, c'est fini, c'est éteint. Celle de Rouen, on essaye de la préserver, mais c'est pas évident. Il y a également la pipistrelle de l'île Christmas, c'est l'île, une île australienne, une espèce de chauve-souris qui a été aperçue pour la dernière fois en 2009. On l'a déclarée éteinte en 2017. Elle a sans doute été victime des espèces invasives qui ont été introduites sur l'île, dont les chats encore, mais finalement les chats, c'est pas possible, mais aussi les redoutables fourmis jaunes. Les scientifiques avaient essayé désespérément de la faire se reproduire en captivité, mais ça n'a jamais réussi. Espèce déclarée éteinte donc en 2017. Le poisson-chat siamois à arête plate, il nageait autrefois dans les rivières et les marais de Thaïlande. Eh bien, on n'a retrouvé aucun spécimen depuis 1977. Et donc, on a déclaré cette espèce éteinte en 2011. On pense qu'il était victime de l'assèchement des zones humides, ainsi que des travaux de canalisation du fleuve Chaopiaria et de la pollution des eaux. Hop, éliminé. Il y a eu pas mal d'espèces, donc voilà, éliminées également pendant cette décennie. 2010, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, en bien et en mal. On écoute un dernier titre et on se retrouve juste après pour évoquer cette fois les grands enjeux de la technologie qui nous attendent pour cette année 2020 sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Jésus, prophète, égal, saint, mais humain, égal, singe.
Jésus, prophète, égal, saint, mais humain, égal, singe.
Jésus, prophète, égal, saint, mais humain, égal, singe.
Copain et Breton, un copain a brisé. Nombreuses cicatrices, un visage abîmé.
Dans le regard, il a compris, ce qu'il a vu dans les centres ne serait que dans les sangs. Dans ce regard, on y voit plus que de la violence à l'essence, brûlant dans un tas de sens. Quand on tape état, toute ta life c'est pouta, font que ta gueule s'est remplie de grosses balades. Tant qu'on me demande la vie, les amis, comme Harry, font qu'à la fin de la scène, t'as la haine toute ta vie. Rallié sous les ordres de César, caché sous les arbres, penchant pour les armes. Moi je ne serai jamais ta chienne, trouver des preuves alléchantes, ma race s'oppose à la tienne, je te propose un échange.
Pas des gouttes.
Amateur Prédateur, c'était Goodson sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotide tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique, et vous avez bien raison, vous nous écoutez sur la bande FM 94.9 et aussi sur graphite.net en direct ou en différé. Il est 12h55, il ne me reste pas beaucoup de temps, alors j'avais plein de choses à vous dire, mais finalement ça attendra la semaine prochaine, c'est pas grave. On va quand même, on a regardé un petit peu le passé, on va regarder l'avenir et la prochaine décennie 2020, les 5 grands enjeux pour la technologie en 2020, la 5G bien sûr, avec ce grand saut dans l'inconnu, les nouveaux réseaux mobiles 5G, censés être plus rapides, plus puissants, vont passer du stade expérimental à celui de la mise en service commerciale. En France par exemple, chaque opérateur devra couvrir 2 villes avant la fin de cette année 2020, avec les premières offres commerciales, on va avoir les premières applications qui vont tirer partie spécifiquement de la 5G également. La bascule sera peut-être symbolisée par la sortie par Apple du premier iPhone compatible 5G, un pas qui a déjà été franchi par Samsung, Xiaomi ou Huawei. Autre chose, la suprématie quantique, hein, parce que 2020 pourrait voir de nouveaux progrès dans l'informatique quantique après ceux annoncés par Google et IBM fin 2019. Google a affirmé avoir atteint ce qu'on appelle la suprématie quantique, c'est-à-dire le stade où une machine quantique bat en capacité le plus puissant des supercalculateurs. C'est une annonce qui a toutefois été contestée par certains experts. À suivre également, eh bien, les progrès des assistances à la conduite dans l'industrie automobile. À défaut d'une voiture parfaitement autonome qui reste encore à un horizon lointain, eh bien, Tesla annonce comme imminente une voiture pouvant se conduire de la maison au travail, probablement sans intervention, mais sous la surveillance d'un humain, nous dit-on. Autre chose, 10 minutes avant que je prenne l'antenne sur Graphite, je recevais une notification du quotidien Le Parisien qui a interviewé une start-up de Lyon, je crois, qui nous annonce cette année également la réalisation d'une voiture volante. Donc on verra ça. Voilà, ça va être une année 2020 encore très intéressante qu'on suivra. Autre chose, la vie privée sous contrôle, mais quel contrôle? C'est Amnesty International, l'ONG qui a soutenu des générations de militants persécutés dans les pires dictatures, qui le dit. Le modèle économique de Google et Facebook, fondé sur la surveillance, est une menace systémique pour les droits humains. Dans l'Union européenne, il faut s'attendre à ce que le régulateur resserre la bride sur tout ce qui concerne la protection des données personnelles. C'est ce qu'estime Loïc Rivière, délégué général de l'association professionnelle Tech in France. Dans les différents pays de l'Union européenne, les enquêtes et les procédures sont en cours contre Google, contre Facebook, contre d'autres également, en application notamment du règlement européen sur la protection des données personnelles entré en vigueur il y a 2 ans. Un nouveau règlement doit fixer de nouvelles règles de jeu sur les cookies qui pistent un petit peu l'internaute et le consentement au ciblage. Les gens sont plus conscients des dangers de la dispersion de leurs données, de la possibilité que leurs moindres faits et gestes sont tracés, bien sûr, mais en même temps, les caméras de surveillance connectées, les enceintes connectées se vendent comme des petits pains, donc il faut faire attention. Autre défi pour cette année, contenir l'emprise des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et aussi les autres géants du net qui s'attaquent à de nouveaux secteurs de l'économie, les séries, les jeux, les transports, la santé, les paiements. On a notamment ce projet Libra, projet de monnaie numérique de Facebook, qui est censé voir le jour cette année, mais qui est contesté par les autorités en Europe comme aux États-Unis. Et puis enfin, on va aussi s'intéresser en 2020 sur l'hébergeur et sa responsabilité éditoriale. La campagne présidentielle américaine sera un test de la capacité et de la volonté des réseaux sociaux à s'organiser contre la désinformation et les manipulations. En Europe, l'Union européenne réfléchit à une nouvelle notion intermédiaire entre l'hébergeur, c'est-à-dire le statut actuel d'un réseau social comme Facebook par exemple, et l'éditeur, de manière à créer une notion de responsabilité éditoriale. Et en France notamment, le Parlement mettra en 2020 la dernière main à la proposition d'une loi destinée à empêcher la propagation des contenus haineux. Il y a pas mal de choses qu'il va falloir veiller d'un point de vue technologique bien sûr en 2020, c'est ce que l'on regardera sur ce qu'on évoquera bien sûr dans cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h bien sûr. Vous nous écoutez sur la bande FM 94.9 et sur sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve samedi prochain pour continuer à feuilleter l'actualité scientifique, technique et médicale. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne année encore, à bientôt, au revoir.